Nous poursuivons notre périple dans l'Épître aux Galates. Le titre du message ce matin, c'est le deuxième voyage de Paul à Jérusalem. Il paraît que Dieu a utilisé l'Épître aux Galates dans la vie de John et de Charles Wesley. Cette grande épître que nous exposons, elle est appelée l'épître de la liberté. Et on l'a vu ce matin dans le petit résumé que Marcel nous a fait, à un moment donné, l'épître aux Galates, c'est liberté en Christ. C'est le grand thème de cette épître, liberté trouvée en Christ en raison de l'évangile de Jésus-Christ. Dans notre exposition, verset par verset, nous en sommes au chapitre 2 de l'épître aux Galates. Et nous lirons d'ailleurs les versets 1 à 5. Donc, Galates, chapitre 2, versets 1 à 5. Ensuite, 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. J'y montai par suite d'une révélation. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduit et glissé parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Alors, on va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur, que tu nous as donnée. Te remercions, Dieu Tout-Puissant, de nous plaidons que tu puisses nous accorder une portion de ton esprit ce matin, de ton esprit saint, Seigneur, pour que tu puisses éclairer notre intelligence et nous aider, Seigneur, à comprendre ta parole, afin que nous puissions porter du fruit, Seigneur. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que sans toi, on ne peut absolument rien faire, Seigneur, et combien on a besoin de toi, Seigneur. Pour être instruit dans tes bonnes voies, Seigneur, afin que nous puissions mener une vie bien réglée, Seigneur, en accord avec tes principes de ta parole, Seigneur, et se soumettre à ta loi. Dans le nom de Jésus, amen. Qui aurait pensé que Saul de Tarse serait devenu un croyant, un chrétien? Et cela est arrivé avec tant d'étonnement, tant de soudaineté. L'homme a été merveilleusement changé. L'expérience de conversion de cet homme changerait le monde à jamais et le cours de la religion. Le docteur F.F. Bruce, dans son commentaire, dit « Aucun événement autre que celui de Christ lui-même a été la preuve si déterminante pour le cours de l'histoire chrétienne que la conversion et le mandat de commission de Saul de Tarse. » Comment cela est-il arrivé? Qu'est-ce qui a causé ce tournant de 180 degrés? Comment ce pharisien fier, un hébreu né d'hébreu, comme il le dit lui-même, devient un prédicateur de l'Évangile pour les gentils, pour les païens? Eh bien, pour faire court, il a rencontré le Christ ressuscité. Pour utiliser le langage de Philippiens, il a été arrêté par Christ. Dans 1 Corinthiens 9, au verset 1, il nous dit « N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? » Si vous retournez dans Galates 1, verset 15 et 16, il décrit lui-même ce face-à-face dramatique, cette rencontre avec le Christ ressuscité. Il nous dit au verset 15, « Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, au verset 16, a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. C'était plus qu'une révélation objective à moi, en parlant de la révélation, mais en moi. La conversion est une transformation intérieure. Dieu change le cœur et renouvelle l'esprit. La révélation sur le chemin de Damas était une expérience intérieure aussi bien qu'extérieure. Il a vu, mais c'était une révélation intérieure aussi. La vérité de l'Évangile était impérative sur sa vie et Paul ne sera plus jamais le même. Ici, dans le passage, dans Galates 1 et 2, dans les chapitres 1 et 2, nous retrouvons l'histoire d'une des plus excitantes, palpitantes que nous ne trouvons nulle part ailleurs dans les annales de l'histoire. Il nous raconte cette histoire pour une bonne raison. Et nous vous dirons pourquoi. Mais il nous dit cette histoire dans Galates au chapitre 1 et 2 sous trois volets. Alors là, on fait un peu une récapitulation de ce qu'on avait vu un peu la dernière fois. Il parle de son style de vie en préconversion dans les versets 13 et 14 de Galates 1. Il parle de sa conversion dans les versets 15 et 16 de Galates 1. Et ensuite, il continue de décrire l'histoire ou la vie de sa post-conversion, après sa conversion. Et ce que nous observons jusqu'ici est que cela implique beaucoup de voyages. Quelqu'un a calculé en termes de milles aériens, ça comportait 13 400 milles aériens. Et il n'avait pas de jet privé. Galates 1, 16 et les suivants nous donnent un mini récit de voyage de ses années initiales après sa conversion, à l'exception d'une très brève période, laquelle il élude. Au verset 18, il monte à Jérusalem. Pour la majeure partie, il disparaît de l'arène et toute l'action se situait soit à Jérusalem et dans les églises de Judée. Il va en Arabie pour 3 ans et il revient dans les contrées de Syrie et de la Cilicie pour plus de 10 ans. Mais il revient aussi à Jérusalem. Il y revient une deuxième fois. Quelqu'un ici ce matin pourrait penser une visite à Jérusalem. Comment cela peut-il être à propos? Comment cela peut-il être pertinent pour ma vie, pour mes luttes de tous les jours, mes problèmes que j'ai? Je ne sais pas si nous avions distribué des pamphlets dans la communauté et que nous aurions eu trop de gens à la porte si nous avions tiré le thème du sermon ce matin, si nous avions mis un titre au thème du sermon ce matin, comme ceci. Venez à l'Église réformée baptiste de Rouyn-Noranda dimanche matin et entendez concernant le deuxième voyage de l'apôtre Paul à Jérusalem. Ou, pour le dire autrement, pour exciter la foule, Paul va à Jérusalem pour voir les apôtres. Ou bien, l'apôtre Paul va à Jérusalem avec un païen incirconcis. Où Paul s'implique dans un pèlerinage pour le soulagement de la famine. Est-ce qu'aucun de ces titres semble pertinent ou à propos? Eh bien, ils peuvent ne pas sembler pertinents ou à propos, mais si vous écoutez attentivement et le suivez à Jérusalem, vous verrez combien pertinent et à propos ce l'est réellement. Il n'y a rien dans notre Bible, d'un couvert à l'autre, qui n'est pas pertinent et à propos et qui n'est pas d'actualité. Ce matin, alors que nous avançons dans le chapitre, à tout le moins dans les quelques 5 premiers versets que nous allons voir de ce chapitre 2, nous allons regarder à travers la lentille des Écritures en nous demandant simplement 4 questions. Quand, où, pourquoi et qui? Ainsi, posons la question et cherchons à mieux comprendre les quelques 5 premiers versets de Galates 2. Donc, la première question, le quand. Rappelons-nous maintenant que Paul nous raconte son histoire à l'encontre des partisans, à l'encontre des partisans, de la critique partisane qui est intense. Son nom et sa réputation a été malmené comme une poupée de chiffon. Il y a des gens qui étaient venus dans l'église, dans les églises de la Galatie. Il fait référence à eux au verset 7 de Galates 1. Il nous a dit « Mais il y a des gens qui vous troublent. » Ce sont des fauteurs de troubles. Ils étaient venus dans l'église et ont commencé à remettre en question l'appel de Paul à l'apostolat et que personne ne devrait l'écouter. Il disait que l'évangile qu'il prêchait était un évangile de second rang, une version païenne tronquée, peut-être même un évangile hybride. Il n'était pas aussi bien que l'évangile prêché par les apôtres à Jérusalem. Ils étaient les véritables apôtres. Ils prêchaient le vrai évangile, en parlant de ceux de Jérusalem, des apôtres. Et Paul cherchera à démontrer par le moyen de ce mini-récit de voyage qui commence au chapitre 1 et se continue au chapitre 2. Et il nous dit les endroits où il est allé, les gens qu'il a vus et même les années qu'il y a passées pour mettre en évidence que son apostolat était indépendant des autres apôtres et que l'évangile libre de la loi qu'il prêche a été reçu directement de Jésus-Christ. Il était à 100% divin et surnaturel. Vous ne pouvez pas prêcher un meilleur évangile que celui qu'il prêche. Cela explique toute cette longue apologétique. Apologétique, c'est la défense de la foi. Cette défense qui commence au chapitre 1 et qui continue au chapitre 2. Paul cherche à démontrer qu'il est à la même page que les autres apôtres. Maintenant, lorsqu'il s'assit face à face avec eux et discute ou leur parle concernant l'évangile qu'il prêche, eh bien le chapitre 2 répond à la question. Remarquez comment le chapitre commence. Il commence avec un adverbe de temps. Ensuite, il utilise le même adverbe au verset 21 du chapitre 1. Il met en avant une chronologie. Ainsi, il veut que nous gardions nos yeux sur l'horloge sur le mur. Et remarquez ici qu'il est tout à fait spécifique dans le temps. Au verset 1, il dit « Ensuite, 14 ans plus tard ». Dans certaines versions, il nous est dit « Après 14 ans » ou « 14 années ». Maintenant, si vous lisez les commentateurs, vous serez quelque peu dérangé à ce point-ci. Des questions concernant les 14 années. Peut-être vous rappelez-vous un sermon qui avait été prêché récemment. Concernant les 3 années qu'il est allé en Arabie. Les Juifs ne comptent pas les années comme nous les comptons. Ils pourraient prendre une partie de l'année et la compter comme entière. Mettons, 3 mois, ça pourrait être compté comme une année complète. 3 ans pourraient être une année et 3 mois. Et 14 années pourraient être 11 années. Ainsi, cette question à laquelle nous faisons face ici, il n'y a pas réellement de réponse. Personne ne sait vraiment. Une autre question dont nous faisons face lorsque nous regardons aux 14 années de Galates 2:1 est de savoir quelle est la ligne de base de ces 14 années. Était-ce à partir de sa première visite à Jérusalem de Galates 1:18 ou est-ce à partir de sa conversion au verset 15 et 16? Un commentateur mentionne que l'expérience sur le chemin de Damas était le grand moment dans la vie de Paul. Et il dit que c'était le point de démarcation. Si vous êtes un chrétien et peut-être sauvé d'une manière, peut-être été sauvé d'une manière inouïe, dramatique, extraordinaire, vous pouvez penser au temps et à l'endroit. Cela devient un endroit très important et peut-être que c'est la date la plus importante sur votre calendrier. Donc, tout cela pourrait très bien faire qu'il pense 14 années à partir du jour où j'ai été converti, en parlant de Paul. Mais quel que soit que ce soit, nous pouvons dire que c'est un temps significatif entre sa première visite et sa deuxième visite à Jérusalem. Matthew Henry, dans son commentaire, donne cette observation. 14 années, c'est une longue période de temps. Un témoignage merveilleux de la grâce préservative de Dieu. Paul a servi Christ durant 14 années. Et la plupart de ces années, il a servi Christ dans des endroits isolés. Il était impliqué sans doute dans la prédication de l'Évangile. Peut-être était-il impliqué dans la fabrication de tentes et évangélisait aussi ceux qui l'écoutaient durant ces années, comme le mentionne un commentateur. Certains autres commentateurs croient que durant ces 14 années, il a été déshérité par sa famille et qu'il souffre de ces souffrances dont il fait référence dans 2 Corinthiens 11. On se rappellera qu'il a reçu des coups de la part des Juifs. Ce ne sont pas là des années aisées, confortables, mais il continue de servir Dieu après 14 années, de prêcher l'Évangile qui lui a été donné par révélation. Ce qui nous amène à notre deuxième question. Où? C'est facile à répondre. Le verset 1b nous donne la réponse. Je montai de nouveau à Jérusalem. Je montai fait allusion que Jérusalem était un endroit élevé et ce l'était. Jérusalem était situé 2400 pieds au-dessus de la mer. Jérusalem était un endroit stratégique dans l'histoire de la rédemption. C'est la ville la plus importante dans la Bible. Même encore de nos jours, nous entendons encore parler concernant Jérusalem. On n'a qu'à écouter les nouvelles et pratiquement tous les jours on en entend parler. Nous pouvons même reculer jusqu'à la Genèse où nous voyons un roi du nom de Melchisédek qui venait de Jérusalem. Nous pouvons lire de David qui choisit Jérusalem comme la cité, la capitale de son royaume, appelée la cité de David. Salomon bâtira son temple magnifique à Jérusalem. Jésus pleurera sur Jérusalem. Jésus mourra et ressuscitera et montera aux cieux dans la proximité de Jérusalem. Le Saint-Esprit viendra ce jour de la Pentecôte lorsque les croyants étaient rassemblés quelque part dans Jérusalem. Jérusalem devient le quartier général, central pour l'Église primitive en termes de concile et de mission. C'est un endroit très significatif dans l'histoire de la rédemption. Ainsi, nous pouvons très bien apprécier pourquoi Paul irait à Jérusalem. Combien de fois est-il allé à Jérusalem? Eh bien, si Nous comptons, à partir du livre des Actes, au moins 4 fois. On peut le voir dans Actes 9, 11, 15 et 21. Et c'était intéressant de noter que Jésus est allé à Jérusalem 4 fois. 2 des 4 visites sont mentionnées ici dans Galates. La première dans Galates 1, et maintenant nous avons ici dans Galates 2 la deuxième visite. Donc cela semble assez simple. Nous avons cependant une question, à savoir laquelle des visites était-ce? La deuxième ou la troisième? Un érudit du Nouveau Testament, C.K. Barrett, dit « C'est un des problèmes compliqués du Nouveau Testament. Et qu'est-ce qui est compliqué? » Plusieurs commentateurs passés et présents ont la position à savoir que c'est la visite lorsqu'il est allé à Jérusalem et ont eu ce fameux concile de Jérusalem qui nous est donné dans Acte 15. Mais il y en a d'autres qui croient que le chapitre 2 fait référence à cette collecte concernant le soulagement de la famine trouvée dans Acte 11. Robert Raymond, dans son commentaire, donne 18 raisons pour justifier la visite pour le soulagement de la famine dans Acte 11. William Hendrickson, dans son commentaire, donne 11 raisons pourquoi il soutient Galates 2 avec Acte 15. Certainement que on ne résoudra pas ce problème ici ce matin, mais on pourrait être à même d'aller voir ces 18 raisons et être à même de prendre une position, soit pour l'un ou pour l'autre. Mais l'auteur que je me sers aligne la visite de Galates 2 avec Acte 11 concernant le soulagement de la famine. Entre autres, il dit que Galates 2 fait référence à un entretien privé. Il est mentionné dans Galates 2, 2b que Paul a eu un entretien privé avec les apôtres par rapport au contexte public, alors que le concile de Jérusalem, c'est plus quelque chose qui a été certainement publicisé à l'époque, alors c'était certainement largement publicisé et public. Donc, ce qui nous amène à la question, troisième question, le pourquoi. Pourquoi est-il allé à Jérusalem? Quel en est le motif pour aller à Jérusalem une deuxième fois? Selon Galates 2, 2, nous pouvons dire ceci. Il est monté à Jérusalem parce que Dieu lui dit d'y aller. J'y montai par suite d'une révélation. Paul était le récipiendaire d'une révélation spéciale. Vous pouvez lire dans d'autres portions, dans Actes 9, 16, 18 et dans 2 Corinthiens 12, que Paul a reçu des révélations directes en plusieurs occasions. Ainsi, sa deuxième visite à Jérusalem a toute l'empreinte de Dieu. Paul répond à une révélation divine. Il ne répond pas à une sommation par les apôtres à Jérusalem. Les apôtres de Jérusalem n'ont pas pris le téléphone et de dire « Paul, nous voulons te voir, viens et nous voulons te parler au sujet de nos intérêts, de nos soucis, de nos inquiétudes. » Eh bien non, Dieu a pris l'initiative, Dieu a révélé sa volonté à l'apôtre et Paul s'en est allé à Jérusalem. Dans la Bible du Sommeur, ce même verset de Galates 2 nous dit, l'amène comme suit, « J'ai fait ce voyage pour obéir à une révélation divine. » Dieu veut cet homme à Jérusalem. Pourquoi? Il peut y avoir plusieurs raisons, mais la raison qui nous est donnée ici dans Galates 2, 2, je leur exposai l'Évangile. L'emphase du mot exposer a le sens de communiquer, de parler aux apôtres concernant l'Évangile. Leur laisser savoir exactement ce qu'ils prêchaient. Il a placé l'Évangile sur la table, pour ainsi dire. Il a mis ses cartes sur la table. Il n'est pas embarrassé, il n'est pas indisposé, il ne le fait pas à contre-cœur pour dire aux hommes à Jérusalem, « C'est ce que je prêche. » Il n'a pas aucun doute, ne se sent pas insécure concernant l'Évangile qu'il prêche. Il est confiant qu'il prêche un Évangile vrai, pur et libre. Mais il veut qu'ils sachent, en parlant des apôtres, exactement ce qu'ils prêchent. Manifestement, il y avait un niveau d'inquiétude. Au verset 2b, il nous est mentionné « de peur de courir ou d'avoir couru en vain ». Il prend ici une métaphore d'un coureur pour exprimer son propos. Il ne va pas à Jérusalem pour que les autres apôtres valident son ministère, mais il veut avoir d'eux leur support. C'est bien différent. Rappelez-vous maintenant le contexte, l'arrière-plan. Paul est sous la critique extrême. Les gens l'accusaient d'être un disciple renégat, celui qui prêche un évangile de son propre cru, de sa propre invention. Le moulin à rumeurs tourne, le commérage était fluide, gratuit, comme la lave qui coule d'un volcan en éruption. Et peut-être, il ne nous l'est pas dit ici, peut-être que la panique, la peur, la suspicion ont commencé à saisir l'esprit et le cœur des gens aussi loin que Jérusalem. L'Église mère et les apôtres à Jérusalem en ont ressenti la chaleur. Les gens disent qu'il y a désunion. Les uns prêchent cet évangile, tu prêches un autre évangile. Les critiques de Paul, sans doute, ont leur apogée, avertissant les gens concernant Paul. Nous devons arrêter ce renégat, ce fou. Il change tout le caractère de la foi juive. Il est un radical dangereux. C'est possible que les mensonges, les calomnies contre Paul atteignaient maintenant les oreilles des apôtres à Jérusalem. L'Église est en danger. L'évangélisation du monde, pourrions-nous dire, est en danger. Et il y a un potentiel ici d'une division majeure. Mais l'apôtre Paul n'est pas stupide. Il connaît les stratégies du diable et une de ses stratégies est de diviser et de conquérir. Jésus dit dans Marc 3, 24, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. » Paul ne peut se permettre d'être passif, d'être oisif, et s'éveiller dans la tornade, dans l'ouragan de la controverse. Sans doute, il sait, si je vais à Jérusalem, je pourrais rencontrer de l'opposition. Les étincelles peuvent voler. Et s'il aime, en parlant de Paul, simplement le confort plus que la vérité, il pourrait prendre le bateau et s'en aller. On peut penser à Jonas, qui a reçu le mandat d'aller évangéliser Ninive, il a décidé de prendre l'autre bord. Mais Paul n'est pas le genre à s'esquiver. Et il n'évitera pas la confrontation à n'importe quel prix. Et ainsi, pour la cause de la vérité de l'Évangile, le bien-être de l'Évangile, le bien-être de l'Église plutôt, il va à Jérusalem. Et il va rencontrer ces gens en privé, les yeux dans les yeux. Mettons les choses sur la table, soyons ouverts. Paul était un grand communicateur. Donc, nous avons le quand, le où, le pourquoi. Et maintenant, le quatrième questionnement que nous posons, le qui. C'est une bonne question. Qui était à Jérusalem à ce temps-là? Qui Paul a-t-il rencontré? À qui a-t-il parlé? À qui doit-il faire face? Si vous regardez au verset 3 et 4, vous avez une idée de qui était là, qui Dieu a impliqué. Eh bien, il y a trois parties. La première partie est indiquée au verset 1. Ensuite, 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. Il a pris deux compagnons avec lui, Barnabas et Tite. Qui étaient ces hommes? Eh bien, si vous lisez dans le livre des Actes, dans Actes 4, 36, on a la mention qu'un certain Barnabas vendit un champ et a déposé en quelque sorte l'argent aux pieds des apôtres pour qu'elle soit utilisée à bon escient. Et nous avons aussi dans Actes 11, 24, mention de Barnabas. On a une bonne indication qui était Barnabas. Il y est décrit dans le verset 24 comme un homme bon, plein d'esprit et de foi. Il apparaît être très généreux en tant qu'individu, comme on l'a mentionné dans Actes 4, 36, où il a vendu un champ. Il est le premier homme qui a ouvert ses bras à l'apôtre Paul après sa conversion. Il y avait un lien d'amitié entre eux. Et c'est Barnabas qui va avec Paul dans ce premier voyage missionnaire. Le mot Barnabas signifie encouragement, consolation. Et Barnabas était quelqu'un qui encourageait. Quelqu'un a dit qu'il devrait y avoir un Barnabas dans chaque église. Tite est l'autre personnage qui est mentionné ici. Il n'a pas le profil aussi élevé que Barnabas, mais nous savons que Paul a écrit une lettre à Tite. Il l'appelle dans Tite 1:4, « Mon enfant légitime en notre commune foi ». Il était un gentil, non circoncis. Il est un homme sauvé sous le ministère de Paul, mais il est incirconcis. Il n'est pas circoncis. Un commentateur mentionne, fait remarquer, « Amener Tite à Jérusalem était un geste audacieux de la part de Paul. Il sait qu'il aura un rebondissement de cela. Les gars à Jérusalem, s'ils n'acceptent pas Tite, il va y avoir un problème. » C'est le premier groupe identifié ici. Le second groupe est identifié plus généralement, à tout le moins ici initialement, en tant que pilier, que leader, des hommes de réputation, au verset 2 et au verset 6. Le mot utilisé est considéré comme étant des piliers, sans doute pour souligner leur place de proéminence, mais aussi combien ces hommes étaient des personnes clés dans l'établissement et la stabilité de l'Église primitive. Il les identifie plus tard au verset 9, à savoir comme étant Jacques, Céphas, entre parenthèses Pierre, Jean, trois apôtres. Des commentateurs pensent que Paul utilise le terme « pilier » ou « des hommes qui semblent être influents ». Et certains disent que Paul semble être un peu ici sarcastique, car les judaïsants faisaient une grosse affaire concernant les hommes à Jérusalem. Il leur donnait, il usait d'un langage un peu sarcastique. Dit Donald Carson mentionne, Paul utilise un langage qui est flexible, assez pour démontrer le respect sans révéler l'asservissement. Oui, je respecte ces hommes, en parlant de Paul qui respecte les apôtres à Jérusalem. Ce sont de bons hommes, ce sont des hommes clés, mais je ne me soumets pas à eux. J'ai un Dieu, un Seigneur. » Trois hommes, Paul, Barnabas, Tite, vont à Jérusalem. Ils s'assient avec trois apôtres, Jacques, Céphas, entre parenthèses Pierre, et Jean. Il y a un troisième groupe mentionné ici, et ils ont besoin d'être identifiés. Paul aiguise sa plume, pourrait-on dire, alors qu'il les décrit. Il n'est pas souriant lorsqu'il pense à eux. Notez au verset 4. « Cependant, à cause des faux frères. » Et concernant le mot « faux frères », c'est le mot « pseudadelphos ».« Pseudo », qui signifie « imposteur ». Qui se prétendent chrétiens, qui se sont introduits dans l'Église furtivement. Ce sont des espions. Qui les a envoyés? Était-ce Pierre? Est-ce que les apôtres à Jérusalem savaient qu'ils y étaient? Étaient-ils des amis proches des associés? Nous devons nous rappeler que Pierre, plus tard, sera entraîné par un groupe qui apparaît être un groupe de judaïsants, des hommes qui étaient peut-être de ces hommes-là, ou des hommes qui leur étaient proches. Et on verra plus loin dans le chapitre 2, il y aura un problème entre Paul et Pierre, une confrontation. Mais ceux-ci sont des faux frères. Il nous est dit qu'ils sont entrés furtivement, sans invitation, sans être annoncés. Lorsque les gens ont un agenda, ne vous attendez pas à voir une éthique sociale. Ce n'est pas la façon que la fierté, que l'orgueil se comporte. Et il est possible, il ne nous l'est pas dit ici, qu'il y ait de la tension entre Paul et les trois autres apôtres à Jérusalem. La Bible nous dit dans Proverbes 16, 28, en anglais, ça dit « A whisperer separates the best friend » ou « Le rapporteur divise les amis ». Le plus pieux et le plus éminent théologien peuvent être séparés et sont vulnérables à la tension et au conflit si nous ne sommes pas attentifs. Et sans doute encore, Paul est bien conscient des plans du diable cherchant à semer la discorde, le désaccord parmi les apôtres. C'est une de ses grandes tactiques et Paul ne se fait pas d'illusions sur ce que ses espions ou ses faux frères essaient de faire. Ils essaient ou cherchaient de subvertir le véritable évangile de Jésus-Christ. Notez au verset 4, il mentionne « Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir. » C'est encore ici l'issue de la liberté et de l'esclavage. Ces faux frères étaient les défenseurs d'un évangile qui demandait la circoncision. Si vous voulez être sauvés, vous avez besoin de Christ plus la circoncision. Christ n'était pas suffisant. Christ plus les rituels, Christ plus la loi. Et notez bien au verset 2, Tite y est mentionné, et ce qui est significatif ici, c'est que Tite n'était pas circoncis. C'est la première fois que le mot circoncis est utilisé dans le livre des Galates. Il l'utilisera plusieurs fois, alors que nous avancerons dans Galates 2, verset 7, 9, dans Galates 5, verset 1 à 11, dans Galates 6, les versets 12 et 15. Dans Romains, la circoncision y est hautement profilée. Dans les chapitres 2, 3, 4, 15, Il est mentionné aussi dans Philippiens 3, dans 1 Corinthiens 7 et dans Colossiens 2, 3. Tous ces passages mettent l'emphase sur la circoncision. Pourquoi? C'était un point très, très chaud dans l'Église primitive. Pour nous qui sommes assis ici ce matin et lisons cela, et nous demandons qu'en est-il de toute cette attention sur la circoncision? C'était une très, très grosse affaire. Si vous n'étiez pas circoncis, vous n'étiez pas considéré comme étant un vrai chrétien ou un vrai juif. C'était un des grands points de vantardise des juifs. Et rappelez-vous de Paul lorsqu'il donne son témoignage, son résumé de conversion dans Philippiens 3. Il dit à premier abord, circoncis le huitième jour. Alors, il s'en fait en quelque sorte une gloire. Derek Thomas, dans son commentaire, dit « La circoncision était pour le fidèle dans l'Ancien Testament le signe et le sceau de l'alliance de la grâce. C'était plus que simplement une marque juive d'identité de race et de privilège. C'était l'indication de promesses faites et gardées par Dieu. » S'il était demandé à un juif « Quelle garantie a-t-il du fait qu'il a été pardonné de ses péchés ?» il mentionnait d'une façon ou d'une autre « J'ai été circoncis. » Ainsi, un vent de tsunami souffle se rabattant sur l'Église primitive. Christ plus la circoncision, en grosses lettres. Et Paul et les autres apôtres se sont tenus fermes et n'ont pas accordé un pouce. Au verset 3, il nous est dit, « Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. » Paul est monté avec un cas comme pour un test appelé Tite. Et laisse savoir à tous que Tite n'est pas circoncis. Un gentil, que Tite a été sauvé par la puissance de l'Évangile de Christ. Et Tite a quitté Jérusalem avec Paul et Barnabas, toujours non circoncis. Donc, c'est certainement une discussion qui a eu lieu. Il ne nous est pas mentionné, mais de par le sens du verset 3, pour que Paul puisse dire, mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. C'est clair qu'il y a eu des discussions concernant cela. Il y a eu certainement des propos, alors peut-être même acerbes à certains moments. Il ne nous est pas mentionné ici, mais le sens de ce passage, du verset, nous le laisse présager. Les apôtres se sont tenus ensemble. Ils sont unifiés en regard à ce qu'est l'Évangile de Jésus-Christ et ce qui constitue le véritable Évangile de Christ. Et Paul résume merveilleusement cette affaire unifiée en ce qui regarde les autres apôtres, et voici pourquoi. Il réaffirme sa position au verset 5. « Nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission. » afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous, soit préservée. Lorsque Paul a fait ses bagages et a traversé Jérusalem avec ses deux compagnons, nous pouvons être certains qu'il y avait un degré d'appréhension et de crainte à savoir ce qui arriverait. Mais Dieu a merveilleusement répondu à la prière. Maintenant, lorsqu'il quitte Jérusalem avec ses deux compagnons, il peut louer Dieu, l'Église est plus forte. Quels que soient les doutes et les suspicions qu'ils avaient à mon sujet, c'est Paul qui parle, et l'Évangile que j'ai prêché, ces doutes et ces suspicions se sont apaisés. Il y a un front unifié, ces trois hommes à Jérusalem, Jacques, Pierre et Jean se tiennent avec moi. Ils sont 100% derrière moi. Nous sommes sur la même longueur d'onde et lorsque l'évangile de Jésus-Christ est en cause. Donc, nous avons le quand, le où, le pourquoi, le qui. On pourrait dire, en anglais, il dit « so what ». Et alors, quelle différence ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Je n'entends pas parler de circoncision. Vous, est-ce que vous entendez parler de circoncision? Il y a deux applications. Est-ce qu'il y a pertinence? Est-ce qu'il y a quelque pertinence que ce soit? Première application. Ne voyons-nous pas l'importance de l'unité de l'Église et ce qui est vital et crucial pour les missions, pour l'évangélisation, c'est l'unité de l'Église. Un prédicateur le mentionne comme suit. Ce fut un grand jour pour la mission. Les apôtres sont unis, se tenant de concert, en accord. Lorsque vient le temps de répandre l'Évangile, Paul ira répandre l'Évangile au monde des gentils. Pierre répandra l'Évangile aux Juifs. Nous pouvons lire dans Galates 2 qu'ils sont unis, qu'ils se soutiennent mutuellement, qu'ils sont en partenariat. Ils réalisent qu'ils ont besoin les uns des autres. Paul savait que si les autres apôtres ne se tiennent pas avec moi, ma mission envers les gentils sera sévèrement handicapée. Il n'est pas monté à Jérusalem pour recevoir leur approbation. Non, il a reçu cet évangile de Christ. Mais il est allé à Jérusalem pour obtenir leur support, pour s'assurer qu'ils étaient ensemble, pour s'assurer que nous pouvons répandre cet évangile et prier les uns pour les autres et y être participants de quelque manière que nous pouvons et apporter l'évangile au monde. Comment apportons-nous l'évangile au monde? Ce n'est pas tous qui avons à quitter et à aller quelque part de par le monde, mais nous pouvons y participer par l'implication, par nos offrandes, nos prières. Et comment cela est-il fait? Pas nécessairement par l'isolement, mais par la coopération avec d'autres églises, d'autres serviteurs. L'Église a besoin de l'Église. Paul a besoin des autres apôtres à Jérusalem, de se tenir avec eux, d'être de concert avec eux. Nous pouvons le faire tout seul, ou nous sommes terriblement handicapés si nous essayons. Les grands réveils, merveilleux temps de bénédiction de Dieu. L'auteur que je me suis servi mentionne qu'il a été invité dans une église en Caroline du Nord, aux États-Unis, et qu'il y avait un prédicateur, un des pasteurs, qui était chevronné dans l'histoire baptiste. Et il mentionne que les baptistes anglais au 17e siècle, quelques-uns d'entre eux étaient appelés les particular baptistes, les baptistes particuliers, parce qu'ils croyaient à la doctrine de l'expiation particulière. Nous pouvons regarder en arrière et dire qu'ils étaient nos ancêtres spirituels et pouvons être reconnaissants pour eux, des hommes qui nous ont donné notre confession de foi, la 1689, qui y ont travaillé et qui l'ont compris, qui ont été fidèles de plusieurs façons. Mais il y a une note triste, une note amère en fait. Durant le grand réveil qui vint sous Whitefield et Wesley, les particular baptistes étaient sur la touche, critiquant. Ils étaient comme les surfeurs qui manquent la grande vague qui se sépare quelque part dans l'océan. Vous voyez, nos ancêtres étaient attentionnés plutôt et pointilleux. Ils se sont tenus souvent tenus et battus concernant des enjeux mineurs, pour aller même jusqu'à s'entêter souvent dans des chants. Qu'est-ce qu'on devrait chanter dans la congrégation? Ils se sont isolés. Ils ne pouvaient pas croire que Dieu pouvait utiliser un Whitefield ou un Wesley. Mais pourquoi? Eh bien, parce que ces gens venaient de l'Église anglicane, qu'ils croyaient être des apostats. Ainsi, ils n'auraient jamais eu un Whitefield venir au pupitre prêcher. Tragique. Nous devons être attentionnés des luttes internes concernant des enjeux mineurs ou qui se développent contre nous. Paul avait besoin de ces hommes pour les supporter. Il savait que son ministère envers les gentils serait sévèrement entravé s'il n'était pas avec lui. Deuxième application, sans doute la plus importante. Nous avons appris de Galates 2 que l'Évangile que nous prêchons a été merveilleusement préservé par Dieu. Pourquoi Paul est-il allé à Jérusalem? Eh bien, si vous utilisez Actes 11, et si vous croyez que c'est sa deuxième visite à Jérusalem, vous pourriez dire qu'il y est monté en raison d'une assistance pour un soulagement lors d'une famine. Mais si vous utilisez Galates 2 comme votre compas, vous pourriez dire qu'il y est monté pour préserver l'Évangile. C'est ce qu'il dit au verset 5. « Afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous, préservée. » C'est ce qui est en cause ici, l'Évangile même. Les judaïsants disaient qu'il y a un deuxième Évangile. Qu'il n'y a pas un deuxième Évangile, mais qu'il y a deux Évangiles. Paul en prêche un et les apôtres à Jérusalem en prêchent un autre. Ainsi, il y a un malentendu, une conception erronée. Il y avait une confusion à savoir quel était le véritable Évangile où les hommes des deux côtés disaient prêcher les deux Évangiles. Et Paul est monté à Jérusalem pour s'assurer qu'il n'y a pas de malentendu en ce qui regarde l'Évangile qu'il prêchait. Et il prêchait un Évangile de grâce, un Évangile de liberté, un Évangile sans mérite humain, sans effort humain. Oui, vous devez croire en Christ, vous devez vous repentir de vos péchés. L'Évangile vient avec des demandes, avec des exigences. Mais même l'Évangile donne la grâce pour rencontrer ces exigences. B.B. Warfield mentionne dans son commentaire Il mentionne « Sauve-toi toi-même ». Il dit « Ce n'est pas « Sauve-toi toi-même ». Il dit « C'est le salut en Christ seul ». Il n'y a pas de substitut. Il ne doit pas y avoir d'addition. Ce n'est pas un évangile de Christ plus. Et nous n'ajoutons pas à la circoncision. Je dois être un chrétien parce que je vais à l'église. Et celui que je me sers, M. Cook, il mentionne qu'il a eu un accident à un moment donné, puis qu'il était à l'hôpital, et que quelqu'un, probablement c'est le pasteur qui vient le visiter, et qui lui demande, il dit, si tu es mort, si tu étais décédé dans cet accident, est-ce que tu sais où tu te serais retrouvé? Alors, il ne dit pas « Je crois en Christ », il dit « Je vais à l'Église ». Alors, il se demande pourquoi est-ce qu'il a dit ça, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? 99,9% des gens pensent. C'est ce que les gens disent. « Je vais à l'Église ». Nous sommes tous légalistes dans le cœur. Paul combat le légalisme, ce genre de légalisme qui détruit le véritable évangile de Jésus-Christ. Paul, par la grâce de Dieu, préservera cet évangile. Il se tiendra avec l'épée et combattra contre les judaïsants à chaque étape du parcours. Et cela pourrait bien être cette épine dans la chair dont il fait référence dans 2 Corinthiens 12. Certains pensent que cela pourrait l'être, que ce n'était pas une forme physique. Les judaïsants ont hanté la vie de Paul. Mais il s'est tenu ferme, il s'opposera et il combattra quiconque qui cherche à tempérer ou altérer ou ajouter à l'évangile glorieux de Christ, même s'il doit prendre le chef des apôtres Pierre lui-même. Et il y aura un engagement entre Pierre et Paul, une confrontation. Et on le verra dans le chapitre 2. Ce fut un grand jour pour la mission. Mais ce fut un grand jour pour tout prédicateur de l'Évangile. Je me demande si nous serions ici aujourd'hui, si Dieu n'avait pas élevé l'apôtre Paul. Serions-nous assis ici, nous réjouissant dans cet Évangile simple, pur, de Christ seul, ou serions-nous assis comme un pharisien très suffisant et content de soi, pensant et à cette semaine passée, disant « J'ai bien accompli, j'ai dit mon rosaire, j'ai dit quelques incantations, j'ai fait ma liste de prières, j'ai mémorisé 5 versets, j'ai ouvert mes livres de théologie, j'ai un bon mariage, je dois être sauvé. » Soyons reconnaissants à Dieu pour l'apôtre nommé Paul, qui est prêt à mourir pour l'Évangile. Charles Haddon Spurgeon cite « La prédication de Paul doit être la prédication d'un ministre aujourd'hui. Il n'y a pas de progrès, d'avancement, dit-il. Nous pouvons avancer dans notre connaissance de la prédication, mais il demeure le même. » En parlant de l'Évangile, c'est le même Évangile. Il a toujours été le même Évangile. C'est pour cette bonne raison qu'il est parfait et la perfection ne peut être meilleure. C'est un évangile parfait, il vous donne un salut parfait, une repentance parfaite, une justice parfaite. Pourquoi ajouter quelque chose? Pourquoi ajouter à quelque chose de parfait? Pécheur, c'est le seul évangile qui vous sauve. Vous avez besoin d'un sauveur parfait, une justice parfaite pour vous revêtir. Vous avez besoin d'un manteau parfait qui vous purifiera de vos péchés et vous le trouverez seulement dans l'Évangile de Jésus-Christ. C'est le seul Évangile qui peut vous libérer, qui peut vous délivrer. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui est parfaite, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, pour l'apôtre Paul que tu as suscité d'entre tes serviteurs pour défendre la foi, l'apologie de la foi, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour ces épîtres que nous pouvons lire, Seigneur, et qui nous montrent que l'Évangile vient de toi, Seigneur, que c'est le véritable Évangile, Seigneur, celui que nous devons défendre. Seigneur, merci, Dieu Tout-Puissant, de nous aider par ton esprit à saisir et à comprendre cet Évangile, Seigneur, afin que nous puissions le mettre en pratique dans nos vies, Seigneur, que ça puisse nous être profitable pour notre pèlerinage terrestre. Dans le nom de Jésus, amen. Amen.